voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Torlotin, Chantal Leroux.
Une société se juge à l'état de ses prisons, écrivait Albert Camus. Que dirait-il alors de la société française au vu de l'indignité des conditions de détention de nombreux établissements pénitentiaires français ? Bonjour Chantal.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
C'est à la prison des Baumettes à Marseille que deux documentaristes ont posé leur caméra pendant 25 jours. Ils en ont tiré un premier long métrage très fort, intitulé « Des hommes », un long métrage qui vient de sortir en salle en France. Alice Audio et Jean-Robert Vialet viennent nous en parler dans une poignée de minutes. À l'affiche de notre émission également cette semaine, les Césars, les prestigieux trophées du cinéma français. L'académie qui les décerne est dans la tourmente depuis la démission fracassante de sa direction la semaine dernière. Nous en parlerons avec le réalisateur Louis-Julien Petit. Et puis nous évoquerons le succès record du film « Holop » en Russie.
J'ai rentré après ça ?
Oui.
Quand ?
2015, quand 2007, 2014, et 2014-2015, après je suis rentré 2015, 4 fois.
Bon courage ! Brièvement de votre maman là.
Je me suis dit comme avant elle travaillait dans la police et tout, je me suis dit je vais faire un gros boxon en volant des trucs, comme ça au moins elle va attendre parler de moi et elle sera bien obligée de reprendre contact à un moment ou à un autre, et c'est ce qu'elle a fait quoi.
Vous êtes une personne vulnérable.
Un extrait du film documentaire Des Hommes, votre premier long métrage de cinéma. Alice Audio et Jean-Robert Vialet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous le mentionnez au début du film. En 2012, le contrôleur général des lieux de privation de liberté qualifiait les conditions de détention de la prison des Baumettes à Marseille d'inhumaines. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez voulu filmer, tourner là, à la prison des Baumettes ?
Pas simplement. Il est vrai que ce rapport est très choquant. Quand il sort en 2012, il parle aussi d'un détenu qui est obligé d'utiliser l'eau des toilettes pour pouvoir boire. On a fait deux films avec Jean-Robert Vialet qui racontait l'histoire de deux femmes qui ont été confrontées à la prison, et notamment à la prison des Baumettes. Et cette prison, elle fait partie de notre ville. Elle est très ancrée à l'intérieur de celle-ci. Les jeunes en parlent beaucoup. Pour nous, c'était assez évident en tant que documentariste d'avoir envie de rentrer à l'intérieur et de montrer ces lieux qui se laissent pas facilement approcher et voir. Là, la tâche était immense. On a dû mettre 2 ans avant d'obtenir le droit de rentrer sans caméra ni micro.
Parce que vous avez d'abord voulu vous imprégner, obtenir la confiance des gens avant de revenir avec une caméra ?
Je crois qu'il fallait qu'on comprenne comment ça se passe et ce que c'était qu'une prison. On ne peut pas avoir une idée de ce lieu sans, enfin, quand on n'y est jamais rentré. Il faut rentrer à l'intérieur pour pouvoir s'y préparer et pouvoir revenir. C'est ce qu'on a fait 1 an plus tard.
Vous y avez passé combien de temps avant de revenir filmer ? Combien de temps pour vous imprégner ?
On a passé 3 semaines sans caméra ni micro, et puis on a attendu encore 1 an avant de pouvoir rentrer à nouveau et de pouvoir y poser nos caméras et nos micros.
Et comment avez-vous convaincu les détenus d'être filmés à visage découvert ?
Au fait, les détenus, ils ont pas vraiment de problème avec ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pensait au départ, nous aussi, que ça allait être très compliqué, qu'on aurait très peu de détenus qui accepteraient d'être filmés. En réalité, pas du tout. Les détenus ont très envie. La plupart d'entre eux avaient très envie d'être filmés, très envie d'avoir un rapport avec l'extérieur. Le rapport avec nous, c'était un rapport déjà à l'extérieur. Et puis, vous savez, c'est très banalisé, les délits dans ces des populations, tous les gens qui sont au Beaumet, enfin, beaucoup de jeunes qui sont multirécidivistes, qui sont déjà passés par la case prison, qui parfois, dans leur famille, ont déjà des gens qui sont passés par la case prison. Donc, au fond, la prison, c'est pas très exotique, vous voyez, c'est pas très inhabituel. Donc, il n'y a pas cette nous, ce qu'on imagine qui pourrait être, si ça nous atteignait, des problématiques comme ça, de la honte, on n'oserait pas, etc., montrer qu'on est passé par la prison. Chez eux, il n'y a pas du tout ce problème, cette problématique-là. La problématique pour eux, c'est de reconquérir peut-être plutôt une dignité, mais du coup, en se montrant, en saisissant l'occasion d'être là, dans ce film par exemple, dans un rapport avec des gens de l'extérieur.
Et vous expliquez donc, toujours au début du film, il y a une petite mention, vous avez passé 25 jours à partir donc de 2016. Vous avez passé en continu. Comment ça s'est passé justement ce tournage?
Non, ça s'est passé sur pas tout à fait en continu. Ça s'est passé entre 2016 et 2018. Nous, on voulait vraiment être dedans et en observation dedans. Donc pour l'administration pénitentiaire, c'était compliqué à comprendre, à accepter de nous laisser vraiment dedans. Donc on a tourné une première phase de 15 jours. Et puis ensuite, un peu plus tard, on est revenu deux fois. Voilà, le tout a fait 25 jours vraiment de tournage à l'intérieur entre 2016 et 2018.
Donc vous n'avez pas sélectionné les détenus, c'est le hasard qui a joué?
Il n'y a aucune sélection de détenus. Non, mais Alice peut vous en parler très bien.
Un film documentaire, c'est toujours construit avec le consentement en fait de ceux qu'on filme. S'il n'y avait pas eu ce désir de leur part d'être filmé, de parler d'eux et de montrer une partie de qui ils sont, ce film n'aurait pas fonctionné. Et puis, dans notre rapport avec eux, ça aurait pas marché non plus. On aurait été rejeté immédiatement. C'est faut savoir que c'est quand même assez particulier d'être accepté dans l'intimité de deux ou trois hommes qui vivent dans 9 mètres carrés. C'est tout petit. Nous, on est très imposants. On a un matériel, on a des micros, on a une caméra. On n'est pas maigrelet non plus. Et on entre là dans l'espace où ils vivent 22h30 sur 24, enfermés les uns avec les autres.
Alors comment avez-vous réussi à leur faire oublier la caméra? Parce que ils ne regardent jamais la caméra.
Ils peuvent pas l'oublier tant elle est imposante et tant elle est là. Et d'ailleurs, c'est pas notre but qu'ils l'oublient. Mais par contre, on n'a plus d'interaction en fait avec eux à partir du moment où la caméra se met en marche. On a des interactions avec eux avant, on a des interactions avec eux après. On parle de ce qui vient de se passer là. Mais pendant le tournage, Jean-Robert est derrière son objectif. Moi, je m'efface derrière. J'entre plus en relation par le jeu du regard avec eux. Et du coup, ce qu'on est en train de filmer, ça devient autre chose. Mais c'est aussi une relation qu'on est en train de filmer et qui existe là à l'image.
J'ajouterais juste là-dessus que effectivement, c'est pas le personnage qui est filmé qui oublie la caméra. C'est le spectateur qui est devant le film qui oublie qu'il y a une caméra.
Aussi, oui.
Voilà, c'est surtout ça qui est important. En fait, le personnage qui est filmé, lui, c'est encore sa propre liberté quand on est en tournage. C'est-à-dire qu'il a la liberté de se saisir de la caméra. Il a la liberté de devenir quelqu'un, d'afficher ce qu'il a envie d'afficher de lui-même. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai d'ailleurs, même dans le rapport humain sans caméra, quand on se rencontre quelque comme ça dans la rue, dans un bar ou dans un travail, dans un bureau, devant une machine à café, chacun joue d'une certaine manière son propre rôle, vous comprenez? Et là, c'est la même chose qui se passe avec une caméra. C'est-à-dire, quelle est la capacité, et il y a de la beauté là-dedans, quelle est la capacité de quelqu'un à se saisir de l'opportunité qu'il a d'être devant un objectif et d'en faire quelque chose. C'est ce que fait, par exemple, Françoise Claustre quand elle est filmée par Depardon dans les années 80 et qu'elle se... Vous voyez qu'elle est otage au Tchad. Voilà, et qu'elle se dit « il faut que je sauve ma vie ». Et pour sauver ma vie, il faut que je sois convaincante. Et elle se saisit de la caméra de Depardon pour jouer son propre rôle. Et on assiste là à la fabrication quasiment d'une actrice à l'image. Et ben tous ces détenus, c'est un peu ça aussi, à leur façon, à leur niveau, à eux. Ils deviennent quelqu'un, en fait, la personne qu'ils ont vraiment envie d'être devant une caméra.
J'ajouterais aussi qu'ils sont dans un temps particulier. On a souvent filmé des hommes au travail, en activité, en réflexion... Mais rarement, en fait, des hommes qui sont en attente, comme ça, qui sont au point mort, dans un point mort de leur vie, et dans un instant où ils vont avoir énormément de temps pour s'ennuyer, évidemment, mais aussi pour penser à ce qu'ils sont, repenser à l'enfant qu'ils ont eu, à leur mère, à leur père, à ce qui les a conduits là aussi. Donc, nous, on arrive dans cet instant-là, et je crois qu'il y a un désir immense de leur part de nous dire... où ils en sont dans leur vie et qui sont pas... Alors nous, on a envie aussi de rappeler aux spectateurs que c'est des êtres humains avant tout, qui, enfin, avant d'être des détenus qui sont là et qu'on filme. Voilà, mais sans doute dans ce temps particulier de l'attente entre les murs.
Alors justement, je voudrais que vous commentiez avec nous la première séquence. C'est un long plan fixe, hein. On voit un jeune homme derrière une porte vitrée sale, c'est mixé, on l'entend avec le son d'ambiance de prison, un son qui monte progressivement, ça dure presque une minute, ce plan, avant qu'un gardien ouvre la porte. Donc le prisonnier, c'est un prisonnier, il a une cigarette à la main. Un détenu sort, mais celui que l'on voyait à l'écran derrière la porte reste enfermé. Et vous en parliez, Alice Audio, Jean-Robert Vialet, ce que vous filmez, c'est une longue attente, en fait. Et on a l'impression que c'est des lions en cage.
Absolument. Là, on est c'est un immense couloir de ce bâtiment des années 30. Dans ce couloir-là, il y a des espèces de salles d'attente, de sas, vous voyez, qui sont effectivement avec des portes vitrées. Et ces détenus-là sont en attente, là, de voir ce qu'on appelle un conseiller de probation à ce moment-là. Un conseiller de probation, c'est une sorte d'assistant social ou d'assistante sociale à l'intérieur de la prison. Et les attentes peuvent être très très longues, parce que tout est très très long en prison, tout est absurde, donc ça peut durer des heures. Et là, en l'occurrence, ce garçon a une cigarette à la main, il essaie de trouver du feu, il attend que des gens passent dans le couloir et demandent du feu. Et là, ça dure une minute dans le film, dans la réalité, ça dure trois quarts d'heure. La scène, le plan séquence. On aurait pu presque, si on avait été extrêmement radical, on aurait pu tenir
laisser
ce plan.
Laisser en temps réel.
Laisser en temps réel, parce que le plan est fou. On le voit revenir vers la vitre, regarder dehors, attendre de voir si quelqu'un passe, retourner en arrière, tourner en rond comme un lion en cage. On voit toute l'animalité, au fond, à force d'enfermement, qui ressurgit comme des animaux enfermés. On revoit, il a des gestes, des mouvements, vous voyez, des déplacements, qui sont quasiment les déplacements des animaux qu'on a l'habitude de voir dans les eaux. Donc il y a quelque chose qui ressurgit de très très étrange.
Oui, parce qu'il se colle à un moment deux, se colle derrière la vitre. Effectivement, c'est assez troublant. Et c'est presque comme si le film était contenu dans cette séquence.
Absolument. Tout pour nous, quand on était au montage et quand on a tourné ce plan, on a su qu'effectivement il se passait quelque chose de très fort à cet endroit-là, à ce moment-là. Et on a senti aussi que là, c'était vraiment du cinéma, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Le plan parle de lui-même. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on le sent, l'enfermement. On sent la folie qui est sans doute à grimper progressivement dans les têtes, sa façon de tourner en rond dans cet espace. Et donc, on s'est dit, effectivement, ce plan-là contient tout ce qu'on va dire après symboliquement.
J'ai pris 7 ans.
Ah, voilà.
Pour moi, c'est une grosse peine. Pour moi, 7 ans, c'est la première fois que je rentre en prison. Tu vois ce que je veux te dire? Pour ça, j'ai le moral et tout, tu vois, heureusement.
Mais gros, je me prenais la tête à faire des carjackings, à ramener là la voiture ou partir faire le transport.
Eh, c'est normal, tu t'es coincé à traquer.
Là, j'ai fait péquer. Là, ici, à Marseille.
Ça va, tu as quel âge?
19.
19.
Ah bah, tu es jeune.
Tranquille. Ah,
c'est ma quatrième peine, frère. Je sors de 2 ans en février 2017. Je reprends 3 ans.
C'est là, mais voilà, de rentrer, ressortir. Rentrer, là, déjà comme ça, il va te ressortir là-haut.
Ils prennent des coups, ouais, c'est vrai.
Tu rentres, après, tu prends une habitude.
Ça y est.
C'est une drogue, c'est comme une drogue.
Ça y est, frère.
Tu vois ce que je te dis ou pas?
Ah, tu rentres, t'es normal.
Tu sors mort, pas, hein. Tu vois, les gens, ils ont des sous. Tu as compris, ils sont bien. Toi, tu sors de prison, tu as envie de te refaire. Tu vois ce que je te dis ou pas? Et après, tu tombes dans le piège, toi.
Alors là, vous saisissez, Alice Audio, Jean-Robert Vialet, une discussion. C'est des jeunes qui viennent d'emménager dans leur cellule.
Ils sont encore dans une salle d'attente et ils vont attendre en fait d'être placés dans le bâtiment en fonction de leur affinité, d'où ils viennent, de quel quartier ils viennent. Là se pose la problématique supplémentaire que le jeune vient de Paris et quand on n'est pas de Marseille, au Beaumet, c'est particulièrement complexe. Il dit qu'il s'est pris la tête à faire des carjackings. Enfin, il utilise en fait du vocabulaire qui est lié au travail, en fait, un travail pénible. Et c'est ça qui est assez troublant, désarmant et triste, c'est que l'unique ambition sociale, c'est celle-ci, en fait. Et c'est ce qui explique qu'on retourne en prison, on retourne au plan stup, on retourne au braquage, parce que dans les quartiers dont ils viennent, il n'y a pas de travail. Il n'y a aucune perspective économique dans des pans entiers de la ville de Marseille où vivent ces jeunes qui font plus du tout partie du projet politique. Et la prison est devenue un repère. Tu rentres, tu sors, c'est ce qu'ils disent. Et quand la prison devient un repère à ce point-là, pour toute une génération, c'est inquiétant. Enfin, une génération, une certaine génération en tout cas.
Vous avez une idée du nombre de réinsertions réussies? Parce que quand on écoute les détenus dans le film, on l'a entendu à l'instant, ils sortent, ils voient des gens avoir plein d'argent, de moyens financiers, ils ont envie de se refaire, et donc pour se refaire, ils commettent à nouveau un délit et, vous le disiez, ils replongent. Alors, donc c'est un cercle vicieux.
Oui, tout à fait. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 65% des gens qui sont en prison, ils retourneront dans les 5 ans. La récidive est immense. Les jeunes qu'on filme là au Beaumet ont en moyenne 10 condamnations à leur casier judiciaire. C'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Comment se réinsérer dans un endroit pareil? Comment se réinsérer dans une cellule de 9 mètres carrés où on vit à 3, où il reste 50 centimètres carrés au sol pour pouvoir se mouvoir, où il n'y a aucune activité obligatoire? Et surtout, en France, on peut enfermer des mineurs à partir de 13 ans, dans une prison. Là, c'est les vacances scolaires, dans les établissements pour mineurs, il n'y a pas l'école parce que c'est les vacances, et les gamins sont laissés toute la journée à la merci de la télévision dans leur cellule, où ils sont seuls, certes, mais qu'est-ce qu'on pense, en fait? Le jeune qui a fait du carjacking, il a déjà fréquenté des établissements pour mineurs. Ça n'a pas marché, en fait. Et ils sont nombreux à fêter leur majorité, l'entrée dans l'âge adulte, en prison, dans des établissements pour majeurs. Ça fonctionne pas.
Et comment ça se passe dans les pays européens? Est-ce que les conditions de détention sont aussi dures que dans les prisons françaises?
Je sais juste qu'en Suède, il y a une loi qui oblige à ce que les détenus aient 6 heures d'activité obligatoire par jour. Par ailleurs, et pour les grands délinquants sexuels et criminels, ils ont des programmes obligatoires de réhabilitation avec un encadrement psychologique intense pour réfléchir et tenter de réfléchir à l'acte qu'ils ont commis et tenter surtout, avant tout, de les soigner. Parce que là, on se rend compte que même d'un point de vue sécuritaire, en fait, ça ne fonctionne pas, la prison telle qu'elle est organisée aujourd'hui.
Il y a un archaïsme en France ahurissant. C'est-à-dire qu'on a... toute l'Europe de l'Ouest est différente sur la question de l'incarcération. Absolument toute l'Europe de l'Ouest. La France est le plus mauvais élève. Il y a eu déjà 17 condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme sur les conditions de détention en France. Il vient de tomber le 30 ou le 31 janvier une nouvelle condamnation de la France qui est historique. Condamnation dans 32 cas pour les conditions de détention en France. Donc effectivement, la France est un des très mauvais élèves de l'Europe sur la question de l'incarcération, avec une problématique majeure qui entraîne ensuite toute une cohorte de problématiques qui est la surpopulation. Entre 2001 et aujourd'hui, on est passé de 48 000 détenus à 71 000. Partout en Europe de l'Ouest, les populations sont stabilisées depuis les années 2000. Ça n'augmente plus. Et dans certains pays, comme effectivement la Suède, la population en prison descend sans que la criminalité à l'extérieur de la prison augmente. Donc en France, on continue à enfermer en masse. Rapidement, on traite les affaires dans les tribunaux, et notamment dans les comparutions immédiates où on jette en masse les gens en prison, et on les stocke. On stocke ces gens qui sont des pauvres gens, en fait, qui sont des gens qui ont des problématiques de boulot, de famille, etc., etc. On les stocke dans ces espèces de... Ouais, c'est du stockage, c'est vraiment ça. Et en fait, on ne règle rien. On ne règle pas du tout les problématiques de finalement du délit.
Et on sort plus abîmé de prison que quand on y est entré.
On sort infiniment plus abîmé. La prison stocke aussi des gens qui ont des problématiques psychologiques lourdes. Il y a entre 12 et 20% de gens qui souffrent de problématiques psychologiques lourdes, de maladies psychologiques, type schizophrénie. Et vous avez 60% des gens en prison qui souffrent de troubles psychologiques de léger à lourd. Donc ça veut dire qu'en prison, progressivement, on se dégrade psychiquement. Progressivement, on s'éloigne du monde du travail. Progressivement, on désapprend à vivre en société. Donc, tout est négatif, en réalité. Alors, je parle essentiellement des peines courtes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on prend un an, une peine d'un an? Qu'est-ce qu'on fait en prison? Pourquoi on n'est pas en formation? La prison coûte 120 à 140 euros par personne, par détenu et par jour. Le bracelet électronique, la mise sous bracelet électronique qui permet de travailler à l'extérieur, coûte 10 euros par jour. Le bracelet électronique plus la formation de gens à l'extérieur de la prison pour effectuer une peine coûte environ 40 euros par jour. Pourquoi a-t-on encore tous ces gens, environ 25 000 personnes qui ont moins d'un an de prison à faire et qui y sont encore?
Ceux que vous filmez, c'est des jeunes qui ont été mis en prison pour des délits. Vous filmez les conditions, il n'y a pas de voix off dans ce film, faut le dire, dans ce film des hommes, il n'y a pas d'explication. On voit des hommes, justement. On n'a pas leur peine. Vous ne mentionnez pas les peines pour lesquelles ils sont...
Non, ça nous intéresse que peu. Ensuite, ce qu'on sait et ce qu'on voit beaucoup, c'est que c'est du stup. Ils sont là pour du stup.
Donc pour des trafics de drogue.
Pour des trafics de drogue. Et vous parliez tout à l'heure de ce que ça fait la prison. Ça fait ça aussi. Ça fait qu'on peut être recruté dans d'autres raisons, dans d'autres réseaux de stup et qu'on peut monter en grade. En prison, c'est une ANPE formidable pour les trafiquants de drogue. C'est aussi la fabrique de la délinquance, certainement. En tout cas, pour les jeunes qu'on filme, qui sont les prolos du shit. C'est des guetteurs qui sont en bas des cités. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais ceux qu'on filme ne sont pas les têtes des réseaux.
Ce qui frappe quand on voit votre film, c'est problématique, c'est la vétusté des locaux, des conditions effectivement déplorables. C'est aussi le son, la bande-son, le bruit est omniprésent.
Le bruit en prison, le bruit est un truc dingue. Ce sont des bâtiments construits dans les années 30 avec ces architectures un peu autoritaires comme ça. Vous avez des plafonds très très hauts, tout est en béton.
Tout résonne.
Tout résonne immensément. Il y a peu d'objets dans la prison par définition. Donc vous n'avez pas de bibliothèque par exemple. Donc vous voyez, ça absorbe pas le son. Donc tout résonne à fond. Les gens sont passablement quand même énervés. Donc ils tapent beaucoup sur les portes. Il n'y a pas de moyen de communication avec les gardiens. Donc toute recherche de communication est complexe puisque ils utilisent des drapeaux, ils déchirent des bouts de papier, ils les glissent à travers l'entrebâillement de la porte pour dire qu'ils ont besoin d'être en contact avec un gardien pour d'avoir une audition, d'aller voir un médecin, et tout se passe comme ça. Donc quand les gardiens qui passent dans les couloirs, on appelle ça les drapeaux, donc vous avez des bouts de papier qui sortent comme ça de chaque porte, les gardiens les ramassent, c'est emmené dans un bureau, ensuite c'est regardé, c'est traité, puis il y a des demandes de rendez-vous là-dedans. Mais ça, tout peut prendre du coup, c'est tellement archaïque que tout prend un temps infini pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, un rendez-vous chez le médecin, pour voir un psychologue, pour régler un problème de violence qui s'est passé dans la cellule entre deux détenus. Tout prend un temps, donc les gens petit à petit deviennent fous, effectivement, et ils tapent sur les portes, ils crient, ils hurlent, c'est ça la prison.
Quand on voit votre film, on a des références, mais des références de films de fiction. Le film du prison, c'est un sous-genre en soi, particulièrement du cinéma américain.
Absolument.
Et on y pense quand on voit vos plans, par exemple, de coursives, vos contre-plongées. Vous aussi, vous aviez cette grammaire l'épouser?
Alors nous, on avait cette grammaire. Sans doute que le film de prison le plus réaliste, parce que la prison américaine et la prison française, c'est pas la même. On imagine, par exemple, nous, les Français, que les gens mangent en réfectoire, comme on a vu des films américains de prison.
Alcatraz,
en fait, il n'y a pas de réfectoire. Mais il y a un film, effectivement, un très beau film sur la prison qui est, d'une certaine manière, le frère jumeau, ou en tout cas, notre film est le frère jumeau version documentaire de cinéma. C'est Un prophète d'Audiard, où on est d'ailleurs dans une prison qui a le même décor, avec le même type de population. Puisque c'est ce que raconte un prophète. Donc oui, on est là, on est dans le réel. Alors, on filme pas nous la violence en direct parce qu'une caméra documentaire est pas en mesure de filmer la violence. Par exemple, la violence de quelques gardiens qui seraient des détraqués.
Oui, parce que les gardiens sont très bienveillants dans votre.
Mais les gardiens sont bienveillants parce que c'est ce qu'on a observé en fait, tout simplement. Vous avez toujours, vous trouverez toujours dans une prison quelques-uns qui sont des violents, des pas sympas, des méchants. Mais la majorité des gens qui travaillent dans une prison, des gardiens, sont des gens et des surveillants, ou des surveillantes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes, sont des gens qui essayent, avec des moyens catastrophiquement petits et inadaptés, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour que ça tienne. Vous voyez, donc il y a plein d'intelligence qui est mise au travail de la part de certains gardiens et de certaines surveillantes et surveillants et qui essayent de faire que le système ne craque pas, parce que le système est perpétuellement au bord du craquage. C'est pour ça qu'il y a des violences. Et le système est au bord du craquage parce que vous avez dans une prison comme ça 1200 places et 2000 détenus. Et parce qu'on a une surpopulation immense. Donc tout le personnel, psy, médecin, infirmier, assistants sociaux, etc., sont complètement surchargés, donc ne peuvent pas réellement prendre en charge correctement les gens. C'est ça qui se passe dans les prisons françaises aujourd'hui. C'est ça la problématique française. C'est une honte française, littéralement une honte française.
Moi, ce que je vois, en tout cas, dans la démarche, je ne peux pas m'empêcher de l'analyser ainsi, le fait qu'on nous ait ouvert ces portes-là, qu'on nous ait laissé tout voir avec une liberté totale, sans aucun contrôle, de la part de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice, je me dis qu'il y a là, de leur part aussi, une volonté de réflexion. Enfin, c'est pas possible autrement. Il est impossible qu'on nous laisse voir un système pareil et qu'on ait la volonté de vouloir le faire perdurer.
La prison des Baumettes a fermé ses portes.
Oui.
En 2018.
Mais les conditions vivre dans 8 à 9 mètres carrés, ça reste la norme et ça reste exactement
pareil ailleurs,
d'actualité. Là, dans les Baumettes 2, les cellules font maintenant 8 mètres carrés, donc 1 mètre carré en moins. La porte s'ouvre dans l'autre sens, vous retirez encore 1 mètre carré à ça. Plus, il y a les douches, ce qui est un progrès formidable, mais ça bouffe encore 1 mètre carré. Calculons le nombre de centimètres carrés qui reste à ces hommes pour vivre là. C'est moins que ce qui est prévu dans les SPA pour les chiens.
Si je me permets, la prison des Baumettes n'a pas fermé. La prison des Baumettes existe toujours. Simplement, il a été décidé, effectivement, que les bâtiments anciens seraient détruits pour être remplacés par des bâtiments récents. Donc la moitié, ils ont reconstruit pour l'instant déjà la moitié des places. À la fin, ils réarriveront à une prison de 1200 places, à une maison d'arrêt de 1200 places. Pour l'instant, ils en ont déjà reconstruit un nouveau bâtiment de 500, je crois, 80 places, à quelques places près. Actuellement, cette nouvelle prison qui, effectivement, contient quand même des douches dans les cellules et des toilettes, contrairement à l'ancienne, est en surcharge complète. Ils sont à 900 détenus à l'intérieur. Donc il y a 300 personnes en plus. Comment le personnel peut faire pour s'occuper de ces gens correctement quand vous avez une surpopulation pareille ?
Après, si ça devient trop dangereux, on sort un couteau. C'est comme ça, nous on les fabrique, c'est facile à fabriquer. Tous les détenus savent comment on fabrique un couteau. Il y a tout le monde connaît, voilà. Surtout au Baumettes, je peux vous le dire. Surtout au Baumettes. Il y a eu plusieurs morts cette année, déjà. Et voilà, toujours pareil, la détention. C'est la jungle, voilà.
On entend dans votre documentaire un détenu qui a des mots très très forts. Il dit « la prison, c'est la cuisine du diable ».
Oui, c'est ça, c'est la cuisine du diable. Soit t'es le couteau, soit t'es la fourchette, mais il faut pas être au milieu. Donc, moi, j'imaginais pas, en fait, que dans ce lieu-là, on pouvait mourir pour un paquet de cigarettes. Il faut se défendre. Nous, on était très proches physiquement de ces hommes. On voyait sur leur corps quantité de cicatrices qui devenaient presque banales, en fait. Je me suis habituée, au fur et à mesure de ce tournage, à voir des coups de couteau, des cicatrices sur les bras de ces hommes.
Comment on sort d'un tel tournage ?
On sort révolté, en colère. On a été invité donc mardi soir, mardi 18, par la ministre en urgence pour que le film soit projeté au ministère avant la sortie du film.
Comme Nicole Belloubet.
Voilà, tout ça s'est organisé très très vite. Et effectivement, moi c'est ce que je disais à la ministre, on sort en colère, on se demande qu'est-ce qui se passe en France ? Pourquoi le système n'évolue pas français ? Pourquoi on est à un niveau d'arriération dans notre système pénal français, qui est une arriération aussi abyssale. C'est incompréhensible, on sort en colère. Et puis on sort avec un deuxième sentiment, c'est qu'on se dit quand même que malgré tout, il y a une puissance, quelque chose chez les individus, chez tous, hein, que ceux qui travaillent comme ceux qui y sont enfermés, il y a une puissance d'humanité qui est extraordinaire. Parce que ce lieu-là, la prison, c'est un lieu qui, fondamentalement, qui est fait pour vous priver d'une partie de votre humanité. Et malgré ça, l'humanité ressurgit partout. Chez tout le monde, on voit de l'humanité ressurgir. Et nous, on a été très attentifs à réussir à capter ça, à réussir à le filmer, à essayer de le filmer le mieux possible. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle quand même.
Et c'est pour ça que vous avez intitulé votre premier long métrage de cinéma, donc Des Hommes. Merci Alice Audio.
Merci beaucoup.
Et Jean-Robert Vialet. Des Hommes, donc, qui vient de sortir sur les écrans français. Une pause musicale, une douceur dans ce monde de bruit et de fureur. C'est Vincent Delerme qui chante Agnès Varda dans Vivarda.
Si on peut oublier tout ça, le stadium, Défense, Arena, les charrues, le concours sous la douche. Si on peut ce soir effacer le carton, 3 millions d'entrées, simplement dire ce qui nous touche. Si on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion. Si on peut vivre une vivarda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. Si on peut regarder ailleurs, pas le clash, pas les chroniqueurs, quelquefois chercher l'élégance. Si on peut trouver la beauté, un visage par le temps froissé, dans la nuit, un danseur qui danse. Si l'on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion. Vivre une vivarda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition.
Vous êtes bien sûr RFI, à l'écoute de tous les cinémas du monde. Vient de nous rejoindre en studio Louis-Julien Petit. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur. On vous avait d'ailleurs reçu à ce micro il y a un an, au moment de la sortie de votre film Les Invisibles. Et avec vous, on va revenir sur la crise qui secoue actuellement le cinéma français, la crise des Césars. On apprenait il y a une semaine la démission fracassante et collective de la direction de l'association qui organise les prestigieux trophées et notamment donc la démission de son emblématique et très contesté directeur, le producteur Alain Terzian. Et ce, quelques jours après la publication d'une tribune dans le quotidien Le Monde, signée par plusieurs centaines de personnalités, des acteurs, des réalisateurs, des producteurs, des scénaristes, dont vous, Louis-Julien Petit. Tout d'abord, donc on est à plus d'une semaine de cette démission, de cette annonce fracassante. C'est quand même une bonne nouvelle, les choses bougent.
Ah oui, c'est une crise positive. Moi, je dirais une crise positive. L'idée, c'était de s'interroger sur l'opacité du fonctionnement de l'Académie. Comme c'est une association loi 1901, il y a des comptes à rendre à ses membres et des publications à faire qui n'ont pas été faites, que ce soit sur la liste des membres, c'est-à-dire quels sont les 4700 membres de cette académie.
C'est soit ceux qui votent après pour les trophées.
Ceux qui votent, oui, parce que en fait, ceux qui votent, on ne sait pas qui vote et on ne connaît pas les résultats, comme aux Oscars et aux BAFTA, c'est-à-dire qu'il y a des collèges et puis il y a des publications, si ce n'est nominatif, parce qu'on n'est pas obligé de dire qui a voté pourquoi, mais en tout cas d'avoir des pourcentages, etc. Ça, c'est complètement opaque. On ne sait pas qui, quoi, comment, et la liste des membres non plus. C'est-à-dire que moi, quand j'ai voté et quand je suis rentré à l'académie, on m'a pas demandé ma carte d'identité. On ne m'a pas demandé de savoir si c'était réellement moi qui votais.
Quelles sont les conditions pour entrer à l'Académie ?
Il faut avoir un parrain, une marraine, qui écrit une lettre manuscrite.
Donc c'est de la cooptation.
Avoir fait au moins un film sorti en salle quand on est réalisateur. Après, en fonction des postes, par exemple, chef costumière, il faut faire 2 ou 3 films, acteur, il faut faire... Enfin, voilà. Mais en tout cas, on ne demande pas l'identité. C'est-à-dire que vous auriez pu voter pour moi. Donc comme on ne vérifie pas l'identité, on ne vérifie pas aussi... qui est à l'étranger, qui est vivant, qui est plus là. Je sais pas, moi. En fait, tout est possible.
Et est-ce que dans le passé, on avait déjà demandé à la direction de rendre public les noms des membres de l'Académie?
Alors, moi, personnellement, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que il y a eu vraiment quelque chose d'étrange. Effectivement, ça a démarré avec Virginie Despentes, Claire Denis, etc., sur l'injustice de ce jeune acteur. Ouais,
c'est ça, il faut rappeler, il y a eu un dîner en janvier, le dîner des jeunes talents, des révélations. Chacun choisit une marraine.
Voilà. Alors, c'est les jeunes, il y en a 32, il y a 16 garçons et 16 filles qui peuvent choisir, pour cette cérémonie, avoir un parrain ou une marraine. Et en fait, ils donnent un nom. L'Académie se doit de prévenir la personne intéressée pour passer cette soirée avec son filleul ou sa filleule. Et il se trouve qu'il y a une liste longue comme le bras de personnes qui n'ont pas été contactées. Notamment Virginie Despentes, Claire Denis. Moi, j'ai appris il y a quelques jours que j'avais été sollicité aussi et que je n'avais pas été averti. En fait, c'est très décevant parce que on fait partie d'une académie, puis excusez-moi, on paye. Il y a aussi beaucoup d'argent.
Qui finance l'Académie ?
C'est nous, en fait, c'est l'industrie du cinéma. C'est-à-dire que chaque adhérent paye 90 euros par an pour faire partie de l'Académie et recevoir le fameux coffret des Césars dans lequel il y a 180 DVD. Pour mettre un film dans ce coffret, il faut payer 6500 euros par le distributeur ou le producteur. C'est-à-dire qu'il y a 180 films. Pour vous faire un petit ordre logique, il y a un film sur deux qui n'est pas éligible au César.
Parce que les distributeurs ou producteurs n'ont pas les moyens de payer ces 6500 euros.
Exactement. C'est-à-dire que moi, quand je mets sur les réseaux sociaux, parce que je suis un cinéphile et que je suis tellement heureux d'être aussi, c'est prestigieux d'être dans ce coffret, tout le monde me dit bravo, bravo. Mais en fait, il n'y a pas de bravo. Parce que on peut faire partie de cette élite des films qui peuvent recevoir un prix. Donc, ça n'est pas juste.
Et vous préconisez de mettre tout simplement un lien. Tous les films pourraient être vus grâce à un lien.
Moi, j'aimerais déjà que tous les films aient le droit à être éligibles au César, oui. D'une part, et puis d'autre part, renouveler la transparence. Soyons plus transparents sur tout. Déjà, donnons plus d'accessibilité à l'entièreté des films français qui sortent. Ça, ce serait de manière plus juste. Et puis surtout, communiquons plus avec les membres de l'Académie.
Alors, vous parliez de transparence. Revenons à l'affaire donc Virginie Despentes, Claire Denis. Vous en parliez. Mmh. Elles font partie, c'est en fait à partir de cette polémique que tout a démarré. C'est-à-dire qu'on a appris que Virginie Despentes et Claire Denis, qui avaient été sollicitées par des jeunes talents, n'avaient pas été contactées. Et en fait, c'est le fait du prince. Ce que ça a mis en évidence, c'est le fait qu'Alain Terzian décidait de tout sans en référer à personne.
Oui, j'ai entendu, c'est sorti dans la presse, que Madame Despentes n'était pas Chanel.
C'est-à-dire qu'elle n'était pas assez glamour.
N'était pas assez glamour parce qu'elle ne rentrait pas dans Chanel qui sponsorisait cette soirée-là. D'ailleurs, on peut se poser des questions encore sur l'argent. Parce que comme on paye une adhésion et qu'on paye 6500 euros, ça fait quand même 1 600 000 euros. En tout cas, ça ne sert pas à sponsoriser ces soirées, à organiser ces soirées, puisqu'il y a des sponsors. Moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est que le jeune acteur Jean-Christophe, Folie, qui était lui aussi dans ses révélations, qui avait le droit de passer une soirée... C'est quand même assez prestigieux, on va se le dire. Et puis, c'est un collège de directeurs de casting qui ont reconnu son talent, sa performance dans son film. Donc, il avait le droit à être là. Et lui, il s'est dit, puisqu'on ne veut pas, puisque ma marraine n'est pas assez Chanel. Et Chanel a fait un démenti juste après, en disant que jamais il s'était opposé ou jamais il n'avait orienté tel ou tel parrain ou marraine.
Donc c'est parti de là et puis ensuite la pelote s'est dividée et donc une tribune a été lancée que vous avez signée. Il y a quelques jours on en était à 700 signataires, vous savez si les signatures continuent d'affluer.
Déjà j'invite tous les exploitants de salles aussi et les techniciens à rejoindre, c'est plus qu'une pétition en fait, c'est un mouvement parce que maintenant on est en train d'étudier. En fait il y a une médiation qui avait été demandée par l'Académie, enfin par M. Terzian. Je sais que maintenant, le CNC a cette tutelle sur le refonctionnement et la, on va dire, l'Académie 2.0.
Une refonte plus démocratique, plus transparente.
C'est clair. On en a besoin. Et donc, je sais qu'ils ont cet accompagnement, ils ont cette charge. Mais je fais toute confiance à Dominique Boutonnat et puis à son équipe pour assurer la bonne refonte. On a été consultés, plein de personnes qui ont pris la parole médiatiquement ont été consultées pour plus de justice, en tout cas, voilà.
Alors, il y a un autre problème, c'est celui de l'absence de femmes ou du manque de représentation des femmes. Est-ce qu'il faudrait des quotas, d'après vous ?
Alors déjà, il faudrait savoir qui sont les membres, parce que si vous êtes capable, vous, de savoir s'il y a plus d'hommes ou de femmes, il faudrait savoir qui est dans cette académie, et nous ne le savons pas.
On n'a même pas la répartition hommes-femmes.
Non, nous ne le savons pas.
Les âges,
etc. Ça n'a appartenu que à Monsieur Terzian de dire ce pourcentage. Moi, je ne le sais pas. Tant que je n'ai pas la liste des membres, et tant que nous n'avons pas, membres de l'académie, la liste des membres de cette académie, nous ne pourrons pas savoir s'il y a plus de femmes ou plus d'hommes. Ça paraît logique. Maintenant, je sais que le collectif 50-50 fait une soirée le 28 aussi pour...
Donc le même soir pour que la cérémonie.
Pour se retrouver. Évidemment qu'il manque de parité. Évidemment que cette refonte des membres directionnels doit être plus mixte, plus paritaire. Évidemment, plus juste, plus jeune. C'est important, ça. Mais moi, j'ai vraiment très, très, très mal pris la déclaration de Monsieur Terzian qui disait que s'il y avait plus de femmes dans l'académie, Monsieur Polanski n'aurait pas eu autant de nominations. Il l'a dit, j'étais outré. C'est nous remettre, nous, la responsabilité des votes.
Effectivement.
J'ai pas compris, en fait.
Oui, parce qu'il y a cette affaire Polanski qui pollue aussi cette cérémonie des Césars. Le film a eu 12 nominations.
Donc J'accuse. J'accuse. Son film sur l'affaire Dreyfus.
Et les féministes sont vent debout contre le fait qu'on puisse récompenser un homme accusé de viol. Quelle est votre position par rapport à l'affaire Polanski ? Est-ce qu'il faut dissocier le cinéaste de l'homme ?
C'est pas parce qu'on est cinéaste qu'on a une immunité. Personnellement, j'ai pas envie de ça. Je suis pas au-dessus des lois, je suis pas au-dessus des règles. Donc voilà, si je suis impliqué quelque part, je suis désolé, je n'ai pas à être. Je ne sais pas. Hein, aux Oscars, en tout cas, quand il y a eu cette affaire, ça a été vite réglé. Hein.
L'affaire Weinstein, puisqu'il a été exclu aussitôt.
Oui, Weinstein et Monsieur Polanski a été exclu aussi. Ça, c'est des faits. Je lis cette affaire, mais je ne la connais pas, donc je vais pas m'exprimer là-dessus. Je fais des films sur les injustices de société. Je m'inspire de la société civile pour essayer peut-être de trouver des solutions dans mes films et les redonner. Donc, on doit être irréprochable, en tout cas. On doit se... dans le fond comme dans la forme.
Merci Louis-Julien Potier. Donc,
merci à vous.
La 45e cérémonie des Césars avec Florence Foresti en maîtresse de cérémonie doit donc se tenir vendredi prochain, le 28 février, à la salle Pleyel à Paris.
Tous les cinémas du monde.
On embarque avec vous, Chantal Laureau, pour notre tour du monde de la planète cinéma. Et tout d'abord, première escale en Chine, où le marché du cinéma est frappé de plein fouet par l'épidémie de coronavirus.
La plupart des salles obscures sont fermées dans le pays depuis le 24 janvier pour endiguer la contagion. Les tournages sont suspendus au ralenti, les grosses sorties reportées. Les pertes financières sont d'autant plus importantes que les longues vacances du nouvel an lunaire entraînent d'habitude un pic de fréquentation des cinémas. En 2019, le jour du nouvel an lunaire, les cinémas avaient engrangé 240 millions de dollars. Cette année, les recettes sont tombées à 300 000 dollars selon un cabinet spécialisé.
Et l'onde de choc est mondiale. Le vaste marché chinois est devenu vital pour les blockbusters hollywoodiens.
Absolument. Un tiers des recettes en Chine est généré par des films étrangers. Disney, par exemple, espérait y remporter un succès colossal au printemps avec sa dernière production Mulan, qui a coûté 200 millions de dollars. Aujourd'hui, le groupe, qui a déjà dû fermer ses parcs d'attractions à Hong Kong et à Shanghai, ne sait toujours pas quand le film pourra sortir en Chine.
En Allemagne, cette fois à Berlin, le Festival international a ouvert ses portes jeudi. Une 70e édition placée sous le signe du politique et de la diversité.
La Berlinale avait signé l'an dernier une charte en faveur de la parité homme-femme. Et on est encore loin du compte. Sur quelques 340 films sélectionnés, 38% seulement ont été réalisés par des femmes. Et sur les 18 films en lice pour l'Ours d'Or, 6 ont été dirigés ou co-dirigés par des réalisatrices. Ce n'est pas la parité, mais Berlin fait mieux que Cannes et Venise. Et puis, temps fort d'un festival très politique, la présence de Cate Blanchett, figure du mouvement Time's Up, de Hillary Clinton, à l'honneur d'un documentaire, et du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné pendant 5 ans.
Et cette fois, on connaît le nouveau thème musical du prochain James Bond. Il est signé Billie Eilish.
Et en une semaine, la chanson No Time to Die, qui est aussi le titre du film, a été écoutée plus de 26 millions de fois sur YouTube. Il faut dire que Billie Eilish est la star qui monte. À 18 ans à peine, la jeune artiste punk rock à la voix envoûtante a raflé 4 Grammy Awards fin janvier dans les catégories majeures, dont Album de l'année et Révélation de l'année. La sortie du 25e volet de la saga James Bond est prévu en avril. C'est la 5e et a priori la dernière fois que Daniel Craig interprète l'agent 007. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you death or paradise? Now you never see me cry. There's just no time to die.
Enfin, on termine notre tour du monde en Russie où un film casse la baraque, casse le box-office. C'est d'ailleurs le plus gros succès du cinéma russe depuis l'éclatement de l'URSS. Son titre, Kholop, en russe, donc ce qui veut dire en français serf, du nom du terme des anciens paysans du Moyen-Âge. Ce film a passé la barre des 3 milliards de roubles de recettes au début de l'année, à peu près 43 millions d'euros. Daniel Valo, vous êtes notre correspondant en Russie, notre envoyé spécial permanent. 43 millions d'euros, ce qui veut dire que plus de 11 millions de personnes ont vu le film en Russie depuis sa sortie en décembre dernier.
Absolument énorme succès pour cette comédie qui a battu le record précédent établi en 2017 par un film qui était consacré aux exploits d'une équipe de basketteurs soviétiques. Le scénario de ce film est simple, mais vous allez le voir très efficace. Un oligarque russe veut refaire l'éducation de son fils, pourri par l'argent. Pour cela, il simule un accident de voiture et le fils à papa se réveille dans la peau d'un domestique au 19e siècle, à l'époque où le servage existait encore en Russie. En réalité, tout est faux autour de lui. Le décor, les villageois qui l'entourent et qui sont des acteurs. Bien évidemment, le premier ressort comique du film, c'est la découverte par le jeune homme d'une époque où tous ses repères ont disparu.
Qui êtes-vous? Où sont vos smartphones? Où sont les avions, les voitures? Allez répéter après moi. La Russie est dirigée par Vladimir.
Vladimir.
Par le tsar Alexandre II. Nous sommes en 1860. Ne te moque pas de notre père le tsar.
Alors, ce qui est très malin dans ce film, ce n'est pas d'avoir refait Retour vers le futur ou Les Visiteurs et se contenter de gags basés sur les anachronismes, mais d'avoir fait un hybride entre le film de voyage à travers le temps et le Truman Show, ce film américain où Jim Carrey vivait dans un monde totalement artificiel. En faisant ce mélange-là, le film joue sur un autre effet comique, le manque de culture historique du personnage principal qui ne se rend pas compte, faute d'en savoir assez sur l'histoire de son propre pays, que tout est faux autour de lui. S'ensuit toute une série de gags que seuls les spectateurs comprennent. Et c'est vrai que cette idée-là, elle est à la fois très nouvelle et très efficace.
Alors un fils à papa, un fils à oligarque, hein, qui se retrouve confronté au servage, au-delà de la comédie, est-ce qu'il faut y voir, Daniel, un message politique ou social ?
Alors c'est peut-être paradoxalement ce qui a fait le succès de ce film, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de sous-texte politique. Rolope se veut un pur objet de divertissement et l'on échappe d'ailleurs au passage aux envolées patriotiques qui plombent depuis quelques années le cinéma commercial russe. Rappelons que le gouvernement russe essaye très souvent de soutenir et de développer des grosses machines patriotiques qui sont censées faire pièce aux blockbusters américains sans vraiment y parvenir. Cette fois, c'est une comédie classique avec des gros moyens certes, mais sans aide du gouvernement qui rafle la mise. Et c'est sans doute une très bonne nouvelle pour le cinéma russe.
Merci Daniel Valo. On rappelle donc le titre de ce film qui bat tous les records en Russie, Rolop. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Chantal Leroux.
Et Sophie Torlotin.
À la réalisation, Pauline Leduc. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma.